Dans la nuit du 15 au 16 janvier, l'Iran a bombardé deux positions au Kurdistan irakien et en Syrie, prétextant cibler des « groupes terroristes ». Quelques heures plus tard, Téhéran a lancé une attaque contre le Pakistan. Quelles conséquences pour la région, déjà en proie à de fortes tensions depuis le 7 octobre 2023 ? David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, répond aux questions d'ici Beyrouth. Comment expliquer le bombardement israélien de cibles terroristes au Kurdistan irakien et en Syrie ? Ce n'est pas la première fois que l'Iran mène des frappes de missiles et de drones dans la région du Kurdistan irakien. Il y en avait déjà eu, en novembre 2022, dans le prolongement du mouvement de contestation initié par le décès de Mahsa Amini, contre des groupes d'opposition kurde-iranien basés au Kurdistan irakien voisin, notamment le Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, PDKI, et le groupe nationaliste kurde-iranien Komala. Ces frappes avaient suscité, à l'époque, une protestation officielle du gouvernement de Bagdad qui les avait condamnées avec la plus grande fermeté, considérant qu'elles empiètent sur la souveraineté irakienne. Il avait aussi assuré qu'il prendrait des mesures diplomatiques de haut niveau, sans toutefois les détailler. Il n'y en avait plus eu depuis. Les frappes de la nuit du 15 au 16 janvier, effectuées dans la périphérie d'Erbil du Kurdistan irakien, par le corps des gardiens de la Révolution, qui auraient visé un rassemblement de groupes terroristes anti-iraniens, ont été justifiées par Téhéran comme étant une réponse aux récents crimes de groupes terroristes contre un certain nombre de nos chers compatriotes à Kerman-Erask. Une référence à l'attentat perpétré par le groupe sunnite radical Jaïch al-Adel, l'armée de la justice, le 15 décembre 2023, contre le siège de la police de Rask dans la province sunnite du Sistan-Baloutchistan qui avait fait 11 tués et une demi-douzaine de blessés. Une référence également au double attentat suicide revendiqué par Daesh, groupe État islamique, le 3 janvier 2024, près de la tombe du général Qassem Soleimani, qui avait mené une lutte implacable contre ce groupe en Irak avant d'être finalement lui-même éliminé par les Américains à Bagdad le 3 janvier 2020. Cet attentat qui avait fait 84 morts et 284 blessés constitue le pire commis en Iran depuis la fondation de la République islamique. Pour Téhéran, l'attaque à Erbil intervient également en représailles à l'assassinat de chefs de « l'axe de la résistance », en l'occurrence à l'élimination par Israël, dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, de Saleh el-Arouri, le numéro 2 du Hamas et de 6 autres cadres du mouvement islamiste palestinien, ainsi qu'à celle, le 8 janvier, de Wissam el-Tawil, responsable au Liban sud de la force Radwan, force d'élite du Hezbollah et peut-être, plus encore, à celle, le 25 décembre. Précédent, du général de la force d'élite Al-Qous des gardiens de la Révolution, Razi Mousavi, en Syrie. Or il se trouve, last but not least, qu'une autre frappe aurait été menée en Syrie par les gardiens de la Révolution, selon leur site officiel SEPA, après avoir identifié les lieux de rassemblement des commandants et des principaux éléments liés aux récentes opérations terroristes, en particulier l'État islamique et Daesh, en Syrie. Les Pasdaran avaient affirmé avoir détruit ces sites en tirant un certain nombre de missiles balistiques. L'Iran affirme donc avoir touché des cibles pro-israéliennes au Kurdistan irakien. Cela peut-il être vrai ? C'est évidemment invérifiable, même s'il est notoire qu'il y a sans doute une présence du Mossad dans la région autonome du Kurdistan, au même titre que d'autres services étrangers. Selon Téhéran, le Kurdistan irakien servirait de plateforme pour les services israéliens, leur permettant de surveiller au plus près de l'Iran. On peut rappeler qu'en septembre 2017, Israël a été le seul pays à avoir soutenu le référendum d'indépendance du Kurdistan organisé par le chef du PDKI, Parti démocratique du Kurdistan, et dont les résultats n'ont pas été reconnus par la communauté internationale. De fait, d'aucuns verraient un Kurdistan indépendant comme un potentiel, second Israël, dans la région. Un problème majeur pour l'Iran qui partagerait des frontières avec un tel État. Lors des frappes sur la périphérie d'Erbil, les gardiens de la révolution iranien avaient assuré avoir visé et détruit un quartier général d'espionnage qu'ils avaient attribué à Israël. Le site visé aurait été, selon eux, utilisé pour développer des opérations d'espionnage et planifier des actions terroristes dans la région. Selon les autorités du Kurdistan irakien, au moins 4 civils ont été tués et 6 autres blessés par le bombardement iranien à Erbil. Un magnate de l'immobilier Peshraw Dizayi et plusieurs membres de sa famille figurent parmi les victimes. Téhéran l'accuse d'avoir collaboré avec le Mossad et le présente comme étant le responsable du soutien logistique et de la protection des espions relevant du Mossad à Erbil. Les frappes iraniennes peuvent-elles constituer une déclaration de guerre contre l'Irak ou contre Israël ? Non, car on est dans une guerre de l'ombre. Avec Israël, le conflit existe déjà, même s'il n'est pas sur le registre de la confrontation directe. Avec l'Irak, la situation est plus complexe. L'Iran est-il en train de commencer à s'impliquer directement dans le conflit entre Israël et le Hamas, qui a débuté le 7 octobre 2023? C'est plutôt un symptôme supplémentaire de la dégradation de la stabilité régionale. L'Iran est indirectement engagé via ses mandataires régionaux, le Hezbollah au Liban, les milices pro-iraniennes en Syrie avec le Liwa Fatimiyoun, la brigade des Fatimides, constituée de chiites afghans et le Liwa Zenbiyoun, la brigade du peuple de Zenab, composée de chiites pakistanais, les milices pro-iraniennes chiites du Hashd al-Shabi en Irak, notamment celles des Kataeb Hezbollah et de la milice al-Nujaba, ainsi que les Houthis au Yémen. Là, ils frappent directement, avec le corps des gardiens de la révolution qui est le corps d'élite du régime. Il s'agit de faire passer un message à Israël. On rentre dans une nouvelle dimension du conflit. Dans l'immédiat, il ne devrait pas y avoir de conséquences spectaculaires. Mais s'il ne s'agit pas d'un nouveau front, il s'agit incontestablement d'un nouveau point chaud. Faut-il s'attendre à une contre-attaque de la part d'Israël? À des bombardements américains? La guerre de l'ombre va sans aucun doute se poursuivre entre Israël et l'Iran dans la région. Pour ce qui est des États-Unis, ils ont condamné les attaques menées par l'Iran au Kurdistan irakien et ont affirmé qu'ils étaient « opposés » à ces « frappes irresponsables de missiles » qui « sapent la stabilité de l'Irak », selon un communiqué du département d'État. Un haut responsable de la Maison-Blanche a proposé au premier ministre irakien une coopération accrue en matière de sécurité après les tirs iraniens de missiles sur le Kurdistan autonome. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden, a d'ailleurs rencontré le premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani et le premier ministre du Kurdistan, Masroor Barzani, lors du Forum économique mondial à Davos, 15 à 19 janvier 2024. Il a évoqué, avec al-Soudani, l'attaque balistique irresponsable. Mais, simultanément, les États-Unis font tout pour essayer de contenir un élargissement du conflit à l'œuvre à Gaza. Ils sont déjà engagés dans une potentielle escalade en mer Rouge avec les frappes de drones et de missiles des Houthis, donc ils vont absolument essayer d'éviter qu'une logique escalatoire se développe ailleurs. Et ce d'autant plus qu'en Syrie, mais plus encore en Irak, les bases américaines situées à la fois à Ain el-Assad et à Erbil, qui comptent encore quelques 2500 militaires, font régulièrement l'objet de frappes régulières pas moins d'une centaine depuis le 7 octobre de la part des mandataires pro-iraniens. C'est ce qui a d'ailleurs conduit Washington à éliminer, par une frappe de drone, le 4 janvier, le commandant adjoint des opérations pour Bagdad, Mushtaq Talib al-Saidi, un haut responsable de la milice al-Nujaba.